la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Bon, je ne viens pas souvent présenter la matinale et je vous avoue que j'ai mal dormi cette nuit. Même si je sais qu'il est 19h et qu'à cette heure-là, on se doit d'être réveillé. Je me demande pourquoi ça vient ces insomnies. Peut-être un mauvais rythme de vie. Après, quand je regarde autour de moi, il y a beaucoup de gens déprimés. Et ça ne me rassure pas sur ce que le monde a à nous offrir. A à offrir à la jeunesse. Et à ceux qui, comme moi, rentrent dans la force de l'âge. Peut-être que c'est dû au réchauffement climatique, auquel nos responsables ne prêtent plus aucune attention. Alors de là à passer à l'action. Ou bien est-ce la faute aux guerres qui ont l'air de ne plus avoir de fin, avec ce cessez-le-feu fragile à Gaza, ou la guerre en Ukraine qui emporte la vie de centaines de milliers de soldats? Ou bien ne serait-ce pas à cause du verrouillage de la vie politique que l'on observe dans de nombreux pays? On le constate en France et d'une manière bien plus spectaculaire et inquiétante aux États-Unis. Mais c'est souvent lorsque l'on se décourage qu'apparaissent les lueurs d'espoir. Déjà ce week-end, il y avait les rassemblements No Kings aux États-Unis contre la politique de Donald Trump, qui ont rassemblé 7 millions de personnes selon les organisateurs. Il y a eu aussi récemment les nombreuses manifestations de la Gen Z, la génération dont je fais partie ou non, selon les démographes. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis dans la limite haute de cette génération. Cette Gen Z, elle avait fait tomber le gouvernement l'an dernier au Bangladesh. Cette année, en septembre, on a eu le Népal. Et en octobre, des manifestations au Maroc et une chute de régime à Madagascar. Certes, cela est toujours plus compliqué qu'on l'imagine. Il y a parfois des militaires derrière ou des politiques prêts à récupérer l'événement. Et on ne sait jamais ce qui arrivera après. On se rappelle de la suite des printemps arabes. Mais cela nous rappelle quelque chose, que les pouvoirs, aussi autoritaires soient-ils, sont fragiles, et que rien n'arrête une jeunesse qui, dos au mur, exaspérée par les inégalités, la corruption, demandant juste un avenir correct, est capable de porter tout un pays, tout un peuple, et surtout, redonner espoir à toute une génération. Au sommaire de cette matinale de 19h du lundi 20 octobre 2025, un zoom sur le duo musical Las Panteras. Hugo reçoit donc ces deux musiciennes qui vont nous parler de leurs inspirations. Avant ça, Thomas nous présentera le Flash Info, puis on écoutera une interview réalisée par Radio U de Sylvain Delfaux, président du syndicat national des radios libres. Et pour conclure l'émission, on écoutera la chronique de Delilah. Mais tout de suite, on revient sur la mobilisation du 11 octobre du mouvement associatif, la représentation nationale des associations française, qui avait un mot d'ordre, ça ne tient plus. On est en direct jusque 20h sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Comment est-ce que vous avez perçu cette journée? Là, on est sur la fin de ce rassemblement sur la place du Martroi. Quel est un peu le premier bilan, si tant est qu'on peut tirer un bilan en tout cas de cette mobilisation?
Franchement, moi je suis en tout cas très contente de cette mobilisation. Je vous avoue qu'on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre parce que c'est la première fois, c'est inédit hein, pour nous, même dans toute la France. Il y avait quand même 300 manifestations d'organisées sur l'ensemble de la France. Donc on ne savait pas à quoi s'attendre et franchement, on est super contents déjà qu'il y ait eu une mobilisation importante, de toutes les prises de parole qui ont pu être faites à cette occasion. Et puis je crois que le petit flash mob, là, le petit die-in qu'on a fait tous ensemble, ça permet aussi de se rendre compte que derrière les associations, il y a aussi beaucoup de bonne volonté, des bénévoles engagés, des salariés, mais aussi des personnes qui sont directement concernées par nos activités. Et c'était ce message-là qu'on avait envie de faire passer aussi auprès du grand public, qu'elles sont aussi concernées par potentiellement la fin du secteur associatif.
Ça a été dit tout à l'heure, le mouvement associatif n'a pas l'habitude de se mobiliser de cette manière-là. Il faut vraiment qu'il y ait péril en la demeure pour en arriver à une telle mobilisation au niveau national.
Oui, c'est ça. En fait, on a épuisé, j'ai envie de dire, tous les systèmes de dialogue habituels avec lesquels on a l'habitude de fonctionner. On fait du plaidoyer, on essaye de rencontrer les politiques. Alors évidemment, dans cette période, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas forcément d'interlocuteurs qui restent. Mais on a fait tout ça, on a fait tout ce travail d'alerte, de sensibilisation. On a fait des enquêtes pour aussi essayer de donner des éléments objectifs. Et à chaque fois, on a l'impression, je vais le dire un peu vulgairement, mais que tout le monde s'en fout, quoi.
Pourquoi est-ce que tout le monde s'en fout, selon vous?
Peut-être parce qu'on est justement un peu gentil et que ça ne se voit pas, en fait. Des petites associations qui meurent un petit peu partout, on se dit c'est pas grave, mais en fait si, c'est grave. Il y a beaucoup de personnes qui sont animées, c'est des citoyens, des citoyennes en fait, qui proposent des projets sur l'ensemble des territoires. Et ça, c'est précieux en fait pour la société, pour l'ensemble des habitants en fait de nos territoires. Donc peut-être ça se voit pas. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à être entendu, on n'arrive pas à faire masse. Mais c'est aussi pour ça que le mouvement associatif existe. C'est aussi pour montrer toute la diversité associative et quels sont les impacts si on arrête de financer correctement les associations.
L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça a été dit à maintes et maintes fois que les appels à projets se multiplient, que c'est de plus en plus difficile de demander des subventions. Une mise en concurrence de plus en plus importante des associations quand on leur demande précisément de travailler ensemble. Vous, comment est-ce que vous voyez un petit peu cette évolution du financement des associations décennie après décennie ?
Bah, évidemment, c'est pas ce qu'on défend, nous, au mouvement Asso. Hein. On essaye de faire en sorte de rappeler qu'il y a tout un arsenal législatif qui permet aux collectivités et aux services de l'État de passer par la subvention et d'éviter cette mise en concurrence permanente entre les acteurs associatifs qui n'ont pas forcément non plus envie, eux, d'être en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Pour nous, vraiment, la subvention, c'est aussi un moyen de reconnaître l'initiative en fait, des citoyens engagés dans le tissu associatif, ce qui n'est pas le cas avec un appel à projet. En fait, l'appel à projet, c'est la collectivité, les services de l'État qui définissent un besoin et qui disent qui est prêt à y répondre. Alors que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse financer des projets qui sont issus du terrain parce que nous, on les voit, les besoins des habitants et des habitantes. Donc c'est ça qu'on essaye en tout cas de rappeler régulièrement, que c'est très délétère et qu'à un moment donné, ça favorise aussi des grosses associations. Et que moi, j'ai rien contre les grosses associations, évidemment, mais on a aussi besoin de ces petites associations qui sont sur le terrain.
Parmi les appels à projets ou autres, il y a notamment les cités éducatives qui ont été créées il y a maintenant quelque temps sur les quartiers de la politique de la ville. Alors, de ma propre expérience moi-même, puisque j'interviens sur une cité éducative, c'est extrêmement lourd les dossiers à rendre. C'est une multitude de réunions assez incroyables pour nous demander de trouver des cofinancements également pour les projets que l'on porte, de trouver aussi de la mutualisation avec des associations, mais avec lesquelles on a le sentiment d'être également en concurrence. Enfin, ça rejoint quelque part la question que je vous disais. On vous les a remontées, c'est des inquiétudes par rapport aux cités éducatives.
Alors, pas spécifiquement sur ce sujet-là. Peut-être d'autres réseaux membres du mouvement associatif sont plus à même de répondre spécifiquement là-dessus. Mais par contre, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est aussi la question de la complexité administrative et aussi du manque de coopération entre acteurs associatifs. Effectivement, tout ça, c'est lié, en fait. Quand on met en concurrence les acteurs et de venir nous dire après, ça serait bien que vous travailliez ensemble, non, en fait, c'est pas si simple. Alors, évidemment, on est parfois plus intelligent, mais tout ça, ça demande du temps, en fait. Et on peut pas dire en un mois ou deux mois, mettez-vous ensemble pour travailler, alors qu'on n'a pas ces habitudes de travail collaboratif nécessairement. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et puis la complexité administrative, ça, c'est vrai que ça épuise aussi beaucoup des bénévoles. Encore une fois, je le rappelle, ce sont des gens qui s'engagent, qui prennent du temps. Et quand on leur demande de remplir des tonnes et des tonnes de documents et qu'on leur demande de redonner aussi les mêmes documents tous les ans, ça, à un moment donné, ça épuise aussi beaucoup. Et on est dans des logiques projet. Enfin, voilà, tout ça, ça s'accompagne. Nous, on fait en sorte d'accompagner les acteurs associatifs avec nos réseaux membres. Mais il y a un moment aussi, ça, c'est pareil. C'est une source d'épuisement. Et aussi, il ne faut pas s'étonner que l'engagement bénévole, notamment des dirigeants, est en train de s'amenuiser.
Parmi les nombreux chiffres qui ont été sortis par le mouvement associatif, même au niveau national, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semblait qu'on parlait d'une association sur quatre qui disparaîtrait si on reste dans la situation actuelle à court terme, c'est-à-dire quoi, d'ici l'année prochaine, d'ici deux ans ?
En tout cas, là, c'est une grosse inquiétude. Je ne sais pas si on est sur exactement les chiffres que vous avez indiqués, mais en tout cas, on entend déjà, en tout cas, moi, j'ai des retours très réguliers sur des associations qui ferment. Certaines réduisent leur masse salariale, leurs salariés, mais déjà on est sur une inquiétude importante sur des associations qui ferment. On est quasiment doublé le nombre d'associations qui déposent le bilan cette année. Donc on voit bien que ça, c'est des choses qui se font à bas bruit et qu'on n'arrive pas à faire reconnaître encore une fois auprès de nos interlocuteurs publics.
Les risques pour la société, la cohésion sociale, quels sont-ils si on a un secteur associatif qui se retrouve très grandement affaibli et diminué?
L'association intervient partout, surtout du premier au dernier kilomètre avec tous les types de publics, de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, la personne malade. Enfin, on voit bien que c'est ça aussi qui tient, qui permet, alors ça fait écho à notre slogan « ça ne tient plus », mais c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, si on n'accompagne pas le secteur associatif, alors évidemment, c'est aussi des personnes qui sont précarisées, qui sont en difficulté, qui n'auront plus accès à certains services, mais ce n'est pas forcément que des personnes en difficulté, c'est aussi des personnes qui vont à des festivals associatifs, des festivals de proximité, qui sont en milieu rural, tout ça, ça risque de disparaître. Et forcément, en tout cas, c'est là-dessus qu'on essaye d'interpeller aussi le grand public pour qu'il entende aussi ce que ça peut amener finalement s'il y a des associations qui disparaissent.
On sait que les associations elles prennent souvent le relais aussi des pouvoirs publics lorsqu'elles ne peuvent pas être présentes. Et de ce qu'on entend, hein, c'est qu'il y a aussi cette logique, ce petit son de cloche qu'on entend régulièrement de diminuer le nombre de fonctionnaires. Donc, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, le service public ne pourrait même pas prendre le relais des associations qui disparaîtraient, si j'ai bien compris.
Ça, c'est sûr, parce que déjà, il y a beaucoup de délégations de services publics qui sont faites au tissu associatif, donc on est déjà sur de moins en moins de services publics et beaucoup de gens sont bien en peine déjà, notamment en milieu rural. On n'a plus d'humains en fait, on est face à des plateformes numériques, beaucoup de choses comme ça qui se développent et tout le monde n'a pas cette capacité d'accéder à tout ça. Donc d'une manière générale, oui, clairement, on peut vraiment s'inquiéter en se disant que de toute façon, effectivement, ce ne sera pas le service public qui remplacera, ça c'est sûr.
Alors, vous avez évoqué le milieu rural, c'était justement la question que je voulais aussi vous poser parce que je l'ai vu aussi de mes propres yeux, ce vieillissement vraiment du tissu associatif. Il y a péril en la demeure encore plus dans le monde rural français ?
Peut-être pas encore plus, parce que je pense que là, pour le coup, c'est vraiment un diagnostic partagé de l'ensemble du tissu associatif. Trouver des bénévoles qui s'engagent, on en trouve, mais ceux qui prennent des responsabilités dans les associations, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et on voit bien, c'est comme tout, hein, les choses évoluent, il y a des gens qui s'engagent de manière plus ponctuelle qu'avant, mais il y a encore de l'engagement. Mais par contre, prendre des responsabilités, bah, ça rejoint ce qu'on se disait juste avant, sur la question aussi de la simplification des démarches. Enfin voilà, comment faire en sorte aussi de donner envie aux acteurs. Et je fais juste un petit parallèle, hein. Là on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on a aussi une inquiétude sur les libertés associatives. Beaucoup d'associations aujourd'hui se retrouvent face à des pouvoirs publics, pas qui mettent de la pression, mais quasi, ou en tout cas certaines s'auto-censurent, n'osent plus dire les choses de peur, de crainte de ne plus pouvoir accéder à des financements.
Et ça, on pense au contrat d'engagement républicain, par exemple.
Exactement. Le contrat d'engagement républicain, c'est notamment l'outil contre lequel on se bat, même si, évidemment, on souhaite respecter les principes de la République. Ça paraît évident. Mais il y a déjà tout un arsenal législatif qui existait. Il n'y avait pas besoin de rajouter ce contrat d'engagement républicain. Et surtout, ce qui nous inquiète avec ce contrat d'engagement républicain, c'est comme il est soumis à interprétation, c'est aussi ce qui met de la pression, en fait, et encore une fois, beaucoup d'autocensure de la part du tissu associatif pour ne plus participer. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai des associations qui m'ont dit « mais nous, on ne participera pas, on a peur des représailles ». Donc voilà, ça donne un peu le ton, quoi.
Des associations d'aide aux migrants, notamment, on sait qu'il y a davantage de périls encore plus pour elles.
C'est vrai que la situation politique en ce moment ne leur donne pas beaucoup de perspectives et c'est compliqué effectivement pour ce type d'association, mais c'est pas les seules. C'est pas les seules, celles qui sont dans les quartiers ou même des associations sportives hein, d'ailleurs, peuvent aujourd'hui être amenées à se dire « je vais pas faire trop de vagues parce que j'ai un peu peur de plus avoir mes financements ». Et nous, ce qu'on rappelle régulièrement, ça a été dit aussi par notre présidente nationale, c'est de rappeler qu'on n'est pas là pour faire plaisir au pouvoir public. Ça n'a jamais été l'objet du tissu associatif. On n'est pas là pour répondre à des injonctions permanentes. Et ça a aussi permis des grandes avancées, hein, que le monde associatif se mobilise. On donne souvent l'exemple de AIDS quand il y a eu le préservatif géant qui a été mis à Paris. Enfin voilà, ça a permis d'alerter aussi sur un certain nombre de grands sujets. Et c'est le tissu associatif qui a permis de faire ça. Donc voilà, on rappelle aussi l'importance d'être... C'est peut-être un gros mot, mais c'est important de dire un contre-pouvoir aussi à un moment, de pouvoir donner cette possibilité à des citoyens d'alerter sur des sujets.
On est à Orléans ici. Je ne sais pas si vous êtes vraiment au courant de la situation, par exemple, du 108 ici, 108 rue de Bourgogne, tiers-lieu associatif, hein, qui regroupe une soixantaine d'associations dans ses locaux et beaucoup plus, en fait, dans cette fédération. Est-ce que on parle d'une possible disparition du 108 à moyen ou long terme? Un salarié, un poste de salarié qui est supprimé, et pas des moindres, puisque c'est le poste de régisseur, c'est-à-dire celui qui permet d'assurer tous les spectacles, notamment qui se font dans ce lieu. Vous avez un peu des retours par rapport aussi à la situation du 108 et des inquiétudes au sein du mouvement associatif par rapport à ce tiers-lieu majeur en centre-ville d'Orléans?
Alors, on a des retours, peut-être pas aussi... moi, je n'avais pas forcément connaissance de l'arrêt de ce poste-là, mais on a des retours, effectivement, de difficultés au 108, mais d'une manière générale, pour le secteur culturel, hein, ça, c'est des choses qui nous sont remontées assez régulièrement. C'est vrai qu'on est un peu démunis aujourd'hui, parce qu'à chaque fois qu'on va avoir un interlocuteur public, il nous dit qu'il a aussi des propres contraintes. Et ça, on l'entend aussi, la contribution au projet de loi de finances. Enfin, les collectivités, à un moment donné... doivent aussi contribuer d'une certaine manière. Donc en fait, on a l'impression d'être cette variable d'ajustement et c'est ça qu'on dénonce aussi aujourd'hui pour le 108, mais pas que pour le 108, pour tout le tissu associatif, que ça suffit en fait. Et c'est pour ça qu'on dit ça ne tient plus, parce qu'effectivement, ça ne tient vraiment plus. Vous l'avez illustré avec cet exemple pour le 108.
Est-ce qu'on peut résumer les revendications principales, ou les rappeler en tout cas, ces revendications que vous portez au cours de cette journée de mobilisation?
Bah, la revendication principale, c'est surtout pas un euro de moins pour le monde associatif. Voir si on pouvait effectivement soutenir un peu mieux les projets, ça serait encore mieux. Mais déjà, ne pas diminuer les financements dédiés aux associations. Et puis, toujours essayer d'avoir ce dialogue, en fait, entre les acteurs publics et le monde associatif. C'est hyper important dans cette période de ne pas se sentir non plus complètement isolé. Aujourd'hui, on a eu aussi des élus qui sont venus nous voir. Et bon, voilà, on a aussi besoin de sentir ce soutien. C'est hyper important. Voilà, d'une manière générale aussi, la question des libertés associatives, je l'ai redit tout à l'heure, voilà, c'est des choses qu'on revendique de manière régulière. Mais là, pour la situation spécifiquement des financements associatifs, c'est ne pas réduire les financements aux associations. C'est surtout ça le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui.
Merci beaucoup pour votre réaction et votre témoignage très fort. Merci beaucoup.
C'était le 11 octobre à Orléans, place du Martroi. On vient d'entendre Gaëlle Payette, directrice du mouvement associatif Centre-Val de Loire, au micro de Radio Campus Orléans. On va continuer à entendre les voix du rassemblement du mouvement associatif. Mais avant cela, on marque une petite pause musicale. On écoute tout de suite New York avec toi de Téléphone.
Aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné. Dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chat. Voici le cœur de la vie dans toi. Tu m'emmèneras. Emmène-moi. Un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans le club il fait noir, mais il ne fait pas froid. Ne fais pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois, la couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi. Un jour j'irai là-bas. Un jour chante. Si le cœur la vie part en toi, et tu m'emmèneras un jour. Emmène-moi un jour aussi, et toucher à ça. Voici le cœur la vie part en moi, et tu m'emmèneras. Emmène-moi.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et pas New York. C'était Téléphone avec leur titre New York avec toi.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
On revient au rassemblement du mouvement associatif d'Orléans qui a eu lieu ce samedi 11 octobre. Cette fois, on va écouter Dominique Lorenzi-Brie, vice-présidente de l'URIOPS Centre-Val de Loire, puis Alexis Orani, président de l'association orléanaise Onifilm, toujours au micro de Radio Campus Orléans.
Oui, bonjour, je suis de Radio Campus Orléans. Je fais un petit reportage et j'ai trouvé parmi toutes les prises de parole qui étaient toutes hyper intéressantes, mais la vôtre en particulier, j'ai senti vraiment pas mal d'émotions. Fallait lâcher des choses, j'ai l'impression. Ouais.
Oui, parce que ça fait 55 ans que je suis dans le secteur social et médico-social et je vais vous dire, je sens un recul absolument considérable de la manière dont sont traitées les personnes vulnérables. Les personnes qui ont besoin des associations, le secteur social et médico-social évidemment, puisque j'en suis issue, mais aussi le secteur culturel, mais aussi le sport, etc. Je suis atterrée par ce recul et je pense que le monde associatif doit se défendre ardemment pour que nous puissions sauvegarder la cohésion sociale, parce qu'il en va de la cohésion sociale. Tout le monde est concerné par les associations. Tout le monde. Nous avons tous à voir avec le milieu associatif, sans parfois nous en rendre compte. Mais en tout cas, 67 millions de personnes, d'habitants dans notre pays, à avoir avec les associations. Donc il faut prendre grand soin des associations, non seulement la société civile, mais évidemment notre personnel politique, qui est bien en difficulté à l'heure actuelle. Il faut qu'il sache prioriser effectivement le sujet que nous défendons.
Vous parliez de changement de traitement depuis plusieurs décennies maintenant. Comment est-ce qu'il s'est manifesté, ce changement de traitement à l'égard du monde associatif, vous qui avez justement cette expérience ?
Eh bien, écoutez, quand nous établissions des budgets et que nous avions une difficulté, nous pouvions échanger avec les responsables publics, les financeurs. Nous pouvions discuter, nous pouvions argumenter. À l'heure actuelle, nous ne pouvons plus. Nous sommes devant un silence assourdissant et nous sommes, j'irais jusqu'à dire que nous sommes méprisés, alors même que nous sommes des agents silencieux et ô combien opiniâtres pour que notre société tienne le coup.
Vous parlez de ce mur qui se dresse devant vous. C'est-à-dire, on ne comprend plus le rôle des associations, on ne veut plus le comprendre au niveau politique ?
Écoutez, visiblement, on est considéré comme un acteur secondaire, mais alors que nous sommes un acteur principal, comme je l'ai dit dans mon discours, pour que la société tienne debout. Alors, effectivement, il va falloir que nos politiques s'aperçoivent de notre... de notre importance. Et effectivement, sinon, c'est un mur qui est devant nous, mais pas que devant nous, devant la société tout entière.
Ça tient, enfin, c'est le pilier principal ou l'un des piliers principaux pour la cohésion sociale et le vivre ensemble, le secteur associatif.
Mais oui, j'ai dit précédemment dans une conférence de presse que nous étions, que les associations étaient le vaisseau amiral de la société. Des droits de l'homme, de l'humanisme.
Si on essaye d'imaginer un monde sans associations, en tout cas avec beaucoup moins d'associations, enfin une France avec beaucoup moins d'associations, à quoi ça ressemblerait et quelles sont les craintes ?
Mais écoutez, les associations, c'est une des richesses de la France et c'est une des originalités aussi de la France. Beaucoup d'autres pays n'ont pas les associations pour aider à tenir la cohésion sociale. Alors effectivement, il faut que nous défendions tout cela parce que nous sommes extrêmement mal partis. Et comme je le dis, il n'est pas question d'être soluble dans l'eau de la dette.
Le nerf de la guerre, donc, c'est le financement. Financement qui est conditionné de plus en plus à des dossiers, des appels à projets qui prennent un temps considérable pour les acteurs du monde associatif à rédiger. C'est ça, le nerf de la guerre ?
Le nerf de la guerre, c'est un financement durable et cohérent pas des stop and go en permanence. Et effectivement, arrêtons les appels à projets, partons du terrain pour savoir quels sont les besoins et laissons les acteurs associatifs fabriquer du projet. À ce moment-là, effectivement, nous pourrons dire que les autorités politiques nous entendent.
Merci beaucoup. Vous pouvez me rappeler juste votre nom, votre prénom et l'association dans laquelle vous intervenez. Peut-être vous en êtes présidente ou...
Alors, je suis Dominique Lorenzibri et je suis vice-présidente de l'UNIOPS Centre, de l'URIOPS Centre, qui est une union régionale d'associations du secteur social et médico-social.
Merci beaucoup, Dominique.
La matinale de 19h.
Alexis Orani, président d'Onifilm, une association donc de cinéma. Est-ce que tu peux nous la présenter, cette association ?
Oui, bien sûr. Onifilm, c'est un espace d'échange et de créativité. On fait venir énormément d'artistes, de jeunes artistes, des plus anciens, des doyens. L'idée, c'est de créer de belles synergies autour de la production audiovisuelle, cinématographique, mais aussi maintenant culturelle. C'est-à-dire que maintenant, on essaye de mettre en avant nos artistes à travers différents événements, pièces de théâtre, notamment avec le Musée des Beaux-Arts, mais aussi des projections au cinéma, Cinéma Les Carmes et au Pâté d'Orléans.
Donc l'importance pour toi d'être présent sur cette journée Ça ne tient plus des associations, est-ce que tu peux nous en parler de cette importance pour toi d'être là ?
Parce que pour moi c'est important de créer des synergies entre nos associations, de montrer qu'on est tous ensemble, qu'on est présents, que nous ne sommes pas éclatés, on n'est pas chacun à faire de nos activités chacun de notre côté, on est tous ensemble pour la même cause. Ce qu'on dit généralement c'est que quand on fait une association, on est d'ores et déjà politisé entre guillemets, on est là pour la vie en cité, pour améliorer les choses, parce qu'il y a des manquements, parce que nous par exemple dans notre association on rassemble des centaines de personnes chaque année et qui ont besoin, qui ont envie de ce type de projet là et pour chaque association c'est la même chose. Donc soutenir ce mouvement là au vu des difficultés que l'on vit tous, c'est montrer qu'on est un groupe, qu'on essaie d'ouvrir des portes et surtout que par notre nombre on est là pour les maintenir ouvertes, donc c'est très important.
Est-ce que actuellement Onifilm, ton association, traverse des difficultés comme de nombreuses autres associations qu'on a pu voir ici ? Est-ce que tu peux un peu nous parler de la situation actuelle et peut-être un peu des perspectives pour le moyen terme ?
Alors oui, en effet, dès cette année, on a senti les coupes dans les subventions. Il y a des subventions qu'on avait les années précédentes qu'on n'a plus cette année. On a des changements de partenaires financiers de part et d'autre. Et du coup, en fait, on sent que là, on est en véritable difficulté. Mais notre philosophie, c'est justement, tout comme l'événement d'aujourd'hui, c'est de montrer qu'on est présent. Donc en fait, on multiplie même presque nos interventions. Pour montrer qu'on est présent, pour montrer que ce qu'on fait a de l'intérêt, a de la valeur, ça apporte des choses aux gens qui viennent. Nous, on a des personnes pour qui l'association a changé leur vie aussi. Donc c'est important de montrer qu'on est présent dans tous les événements, partout, pour au contraire, on n'essaye pas de se dire on a moins d'argent, du coup on va baisser nos activités. On est plutôt en mode on va trouver d'autres façons d'être présent. Et voilà.
Tu nous parlais de cette importance d'être visible, d'être toujours présent. Ça me fait penser aussi à quelque chose que nous, on vit également en éducation aux médias, mais ça peut être aussi dans plein d'autres secteurs du monde associatif, la concurrence. On en parlait en fait avec certains membres du mouvement associatif Centre-Val de Loire. Une des choses qui est revenue, c'est de dire que de plus en plus, on est aussi sur de la mise en concurrence du monde associatif, alors qu'on demande précisément, et que c'est même la base du monde associatif, de travailler ensemble et de faire tous front vers le même objectif. Tu le ressens aussi, tu la ressens cette mise en concurrence ?
Je la ressens énormément et j'essaye de ne pas trop y prêter attention parce que déjà quand on a lancé notre association, on avait déjà cet état d'esprit de vouloir rassembler, de créer des synergies entre associations du milieu culturel ou au-delà. Mais c'est vrai qu'en fait de plus en plus cette tendance est revenue à la charge. Moi j'ai tendance à dire qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on est tous complémentaires parce qu'on a des philosophies, des énergies différentes aussi et on est tous là et on peut pas s'occuper de toute la ville d'Orléans. On n'a pas cette prétention de dire une seule association suffit pour gérer tout la partie culturelle de la ville. Mais de plus en plus, en fait j'ai l'impression que plus c'est difficile, plus il y a cette concurrence et bizarrement j'ai même l'impression que c'est les points de vue extérieurs qui nous met en concurrence. C'est pas forcément nous entre associations, même si des fois ça peut arriver qu'il y ait cette sensation qu'on est en concurrence, mais je pense que c'est un peu le regard extérieur de se dire il y a tant d'associations qui sont dans ce domaine là et c'est des concurrents, alors il faut en choisir un, il faut en sélectionner un parmi eux tous, alors qu'en fait ils ont tous de la valeur, ils ont tous leur complémentarité. Donc voilà.
Tu les vis aussi ces histoires d'appels à projets qui se sont élargis davantage dans le monde associatif. Ah. Ou toi ça va, t'as pas eu besoin d'en rédiger?
Eh bah, si, on a dû multiplier en fait nos demandes, nos appels à projets. Nous, avec nos adhérents, on a toujours une liste, on a un réseau où on partage tous nos appels à projets. Généralement, on en met plein, mais en fait, c'est tellement chronophage, ça demande tellement de temps, c'est pas facile en fait de participer à ces appels à projets, surtout que parfois c'est très restrictif. Et selon les appels à projets, ça peut être aussi très concurrentiel également. Et nous, on n'a pas l'envie de trop se montrer compétitif. On veut se montrer que nous, on est présent, on est là par défaut et voilà.
Et d'ailleurs, sur ces appels à projets, il y en a certains qui sont rejetés aussi. C'est-à-dire ce qui signifierait des efforts pour rien.
Comme je te le disais tout à l'heure, cette année, c'est arrivé. C'est que là, des fois, c'est énormément d'énergie, en plus de nos activités, parce qu'il faut maintenir nos activités, nos événements, etc. En plus, il faut répondre à ces appels à projets. Et oui, on a eu 3-4 refus cette année. Et c'est vrai que c'est embêtant, parce que ça demande énormément d'énergie pour pas grand-chose au final. Et ça démoralise un petit peu, mais on se dit toujours, bon, la prochaine sera bonne. On essaye de garder cette idée de résilience et de rester positif, parce que là, comme on a pu le voir aujourd'hui même lors de l'événement, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont démoralisées, qui ont très peur pour la suite. Et moi, j'essaye vraiment de garder cet esprit positif, de dire non, parce qu'en fait, tant qu'on se dit qu'on peut y arriver, on fera toujours un pas de plus vers ça. Que si on est démoralisé, on va stagner et c'est là que c'est compliqué.
Merci Alexis.
Merci à toi.
On vient d'entendre Alexis Orani, président de l'association orléanaise Onifilms. Avant lui, c'était Dominique Lorenzi-Brie, vice-présidente de l'Uriop Centre-Val-de-Loire. Tous deux étaient au micro de Radio Campus Paris. C'était ce samedi 11 octobre à l'occasion du rassemblement à Orléans du mouvement associatif. Mais tout de suite, c'est l'heure du Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour à tous. Un cambriolage spectaculaire a eu lieu au musée du Louvre hier matin. Des bijoux d'une valeur inestimable ont été volés en quelques minutes par un commando de malfaiteurs. Le commando est parvenu à s'introduire en plein jour dans le musée par un balcon à bord d'une nacelle installée dans la rue. Ils ont alors percé une vitre à l'aide de disqueuses. Ni les voleurs ni leur butin n'ont été retrouvés. Seule une couronne, manifestement perdue sur place lors de leur fuite, a été récupérée par les autorités. Les bijoux ont une valeur patrimoniale mais sont invendables en l'état. Les experts s'inquiètent d'un risque de dépeçage. Les pierres et les perles pourraient être desserties et remontées pour faire d'autres bijoux. L'intersyndicale met la pression aux parlementaires sur le budget. Elle demande la suppression des mesures d'austérité figurant dans le projet de budget de l'État pour 2026. Le budget présenté par le gouvernement fait encore porter l'essentiel des efforts sur le monde du travail. Il dénonce un budget d'austérité avec des mesures inacceptables pour la population. Les syndicats demandent l'élaboration d'un budget de justice sociale et fiscale garantissant un haut niveau de protection sociale, des services publics renforcés et des investissements vers une transition écologique et industrielle juste et de haut niveau. Et puis à Lyon, 4 personnes sont décédées ce matin dans l'incendie d'un immeuble du 3e arrondissement. L'incendie s'est déclenché vers 5h10 selon la préfecture du Rhône. Un important dispositif a été rapidement déployé sur les lieux, 70 sapeurs-pompiers et 34 engins, ainsi que 4 équipages du SAMU du Rhône ont pu éteindre le feu vers 7h. 10 autres personnes ont fait l'objet d'examens par les secours. Un gymnase a également été ouvert par la ville pour accueillir les victimes. 2 femmes et 2 hommes sont morts dans les événements. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de ce drame. Le groupe français de luxe Kering vend sa division beauté à son compatriote L'Oréal pour 4 milliards d'euros. Le but ? Réduire son endettement et continuer son redressement. La réalisation de l'opération est prévue au premier semestre 2026. La cession annoncée dans la nuit est saluée par les marchés à l'ouverture de la Bourse de Paris ce matin. L'action Kering gagnait plus de 5% dans les premiers échanges. Le partenariat inclut les droits de conclure un accord de licence exclusive d'une durée de 50 ans pour la création. Il est également inclus un partenariat prévu sous la forme d'une co-entreprise à 50-50 pour permettre de créer des services combinant les capacités d'innovation de L'Oréal et la connaissance approfondie des clients de luxe Kering. On continue à l'international. En Iran, l'ayatollah Ali Khamenei a déclaré ce matin que le président américain Donald Trump rêve s'il pense avoir détruit les sites nucléaires iraniens. Les États-Unis ont mené en juin avec Israël des bombardements contre l'Iran. Le président Donald Trump avait alors affirmé que le programme nucléaire iranien aurait été totalement détruit. Le dirigeant iranien lui répond, je le cite, « C'est bien, continue de rêver ». Il a également ajouté lors d'une rencontre à Téhéran avec des sportifs, à l'intention du président américain, « Qui es-tu pour dire qu'un pays doit ou ne peut pas avoir le droit au nucléaire ?»
Merci Thomas pour ce flash info. Il est temps de marquer une deuxième pause musicale avec Bourbon Kisses de Gene Summers. C'était Bourbon Kisses de Gene Summers. Désolé pour la prononciation. Il est 19h38 sur Radio Campus Paris et tout de suite une interview réalisée par nos camarades de Radio U à Brest. On va écouter Sylvain Delfaux, président du syndicat national des radios libres, qui va nous parler du fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER, qui est de nouveau menacé d'une baisse de l'enveloppe financière dans le projet de loi finance 2026. Le FSER, on le rappelle, est une subvention majeure pour nombre de radios associatives.
La matinale de 19h.
Projet de loi finance 2026, un cataclysme budgétaire qui menace les radios associatives françaises. Dans un contexte budgétaire contraint, le projet de loi de finance 2026 prévoit une réduction de 16 millions d'euros du fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER, ramenant donc son enveloppe de 35 à 19 millions d'euros, soit une baisse de 44% par rapport à 2025. C'est une nouvelle attaque frontale contre les radios associatives, car plus de la moitié d'entre elles pourraient disparaître et près de 80% des emplois du secteur seraient menacés. Sylvain Delfaux, président du syndicat national des radios libres, nous explique cette mesure et les conséquences qu'elle pourrait avoir sur les radios associatives.
Je suis Sylvain Delfaux, je suis fondateur de Radio Laser en 1992 du côté de Rennes. J'ai aussi créé la SCOL, qui est un organisme de formation qui forme des animateurs, des animatrices radio, donc toujours du côté de Guichen, en Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes. Et puis je suis aujourd'hui président du syndicat national des radios libres. C'est un syndicat représentatif qui défend les radios associatives. Les radios associatives, en fait, elles ont une mission de communication sociale de proximité et elles ne font pas de publicité à l'antenne. Et donc le deal, c'est ça le départ. Et donc on a une dotation du fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est le ministère de la Culture qui nous donne donc cette dotation pour faire ce travail de mission sociale de proximité. Voilà le deal de départ, ça fait 40 ans que ça fonctionne comme ça. L'an passé, on nous a attaqué, on nous a dit on va vous baisser d'un tiers cette subvention. Pourquoi ? Parce que c'est le budget du silence, on veut nous faire taire. On a travaillé pour annuler cette baisse, les parlementaires ont proposé des amendements et donc la baisse n'a pas eu lieu l'an passé. Cette année, c'est encore pire puisqu'on veut nous baisser de 44% cette subvention, cette dotation. Tout simplement, c'est vraiment le budget du silence. On veut nous faire taire. Le pluralisme dans les territoires, eh ben, c'est nous. On est dans tous les territoires de France. Plus de 750 radios associatives dans les territoires d'outre-mer, en métropole. Et souvent, c'est le seul média dans les communautés de communes, dans des endroits reculés. Et aujourd'hui, en fait, l'État dit, ben, non, ça suffit. On coupe les vivres. Donc, vous allez stopper de faire de la radio sur vos antennes. Les conséquences de cette baisse annoncée, c'est dramatique, c'est un cataclysme. L'idée, c'est derrière tout ce qu'on fait en éducation aux médias, tout ce qu'on fait en recevant les gens à l'antenne, tous les bénévoles qu'on a à l'antenne, eh ben, on ne pourra plus le faire, puisque tout simplement, il y aurait peut-être 2000 emplois de supprimés dans le monde de la radio. On ne pourra plus faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un vrai cataclysme, en fait, qui s'annonce du côté de l'emploi dans les radios associatives. C'est très grave, c'est vraiment ce que le gouvernement veut. Mais nous, on va se battre. On se bat, on sait que les parlementaires, les députés vivent dans les territoires, connaissent l'importance d'une radio associative et donc on a bon espoir que encore à nouveau cette année les parlementaires nous soutiennent. Et puis nous après, bah, il faut qu'on se dise à un moment donné, il faut sécuriser ce fonds, il faut sécuriser avec un programme pluriannuel où on nous sécurise parce que c'est pas possible que chaque année on passe du temps à se défendre. C'est insécurisant pour les gens qui ont besoin des radios, pour le pluralisme parce qu'on est vraiment la voix dans les territoires, donc il va falloir qu'on travaille, qu'on ait une vraie co-construction aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est que ça, on l'a appris mardi soir, alors que c'est depuis le mois d'août qu'ils le savent et qu'on les a rencontrés plusieurs fois. Le ministère de la Culture, on a rencontré les gens qui nous accompagnent. Personne ne nous l'a dit. Ils l'ont gardé sous silence. C'est pas normal. On doit co-construire des politiques publiques aujourd'hui. Aujourd'hui, on demande à tout le monde de se mobiliser. On demande aux radios d'écrire à leurs députés, à leurs parlementaires. On demande aux élus locaux de se mobiliser, d'écrire à la ministre, de faire en sorte que demain, ça bouge et qu'il y ait un vrai amendement qui rétablisse le fonds de soutien à l'expression radiophonique.
C'était une interview de Sylvain Delfaux, président du syndicat national des radios libres, réalisée par Radio U à Brest. Nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Il est maintenant venu le temps de passer au Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Le Zoom de ce soir vous est présenté par Hugo. Salut à toi.
Salut, ça va ?
Et oui, ça va très bien. Et toi ?
Ça va.
Ce soir, tu reçois le duo musical Las Panteras.
Exactement, deux femmes ce soir. On parle d'un projet qui sort bientôt, c'est Hasta Cuando, avec le concert qui est le 7 novembre au studio de l'Ermitage à Paris, dans le cadre du festival Ville des Musiques du Monde. Nous sommes avec Marta Galarraga.
Enchantée,
dit Martica. Et Eliane Castillo. Je prononce
Hola.
Bien, ça va?
Si, muy bien, très bien.
Muy bien, ça va?
Oui, perfecto.
Super. Vous êtes afro-cubaine d'origine et donc vous chantez en espagnol et à la fois en yoruba. Ce projet qui sort, il est profondément ancré dans le féminisme. On parle des femmes, de toutes les classes, plusieurs métiers, plusieurs visions, plusieurs histoires. Comment est-ce que vous le décririez, votre projet?
Comment on le décrit? Alors, on peut dire déjà qu'on fait du afro-punk latino et qu'on est on fait un concept que c'est l'afroféminisme latino. Et là, ces projets réunissent justement ça que tu as dit, les spiritualités. Ça réunit les côtés féroces, je ne sais pas comment on dit ça en français.
Féroce, c'est oui. Très bien dit. C'est bon.
Et les côtés aussi sensuels. Et il y a de l'amour et il y a de la liberté, voilà, plein de choses.
Exactement, et vous vous appelez Las Panteras.
Las Panteras.
Pourquoi ce nom?
Pourquoi ce nom?
Cet animal totémique, ça représente la maternité, mais aussi la férocité au moment de vie, qu'il y a les contrariétés et nous sommes là pour se battre. On contre, c'est une lutte jour à jour de partager et faire mise en valeur de notre valeur et le respect pour nous en tant que femmes.
Très bien, et vous chantez aussi en yoruba un petit peu. Alors d'où vient cette langue et comment est-ce que vous la parlez?
Ça fait partie de la racine, l'héritage qui nous ont laissé les Africains pendant la période de l'esclavage à Cuba. Et c'est parti de Nigeria, aussi au Brésil, c'est le candomblé. On l'appelle la santeria. C'est le culte aussi de la philosophie yoruba. Et cette racine, ça me touche très, trop parce que mon papa, c'est la grand-mère de mon papa, ma grand-grand-mère, elle était nigérienne d'origine et elle est née à Lagos,
okay, la capitale.
En Afrique. Ouais. Donc, on lui a transmis la langue et tous la nourriture, les habitudes, aussi la religion.
Et donc, chanter en Yoruba, c'est un peu perpétuer cet héritage-là et le faire ressortir.
Ouais. Justement, c'est la philosophie de continuer à vivre et de partager ça que les ancêtres nous ont laissé comme héritage.
Il y a un titre phare qu'on va écouter juste après qui s'appelle Hasta Cuando, et dedans vous chantez, vous répétez Hasta Cuando si somos las mujeres que tenemos el mando, jusqu'à quand si ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Alors je vous pose la question, jusqu'à quand?
Jusqu'à... en fait, c'est un truc, on va dire, infini, parce que malheureusement, toute cette démarche, ça existait déjà, ça existe et va continuer à exister. On espère qu'un jour, tous les droits des femmes, ça va être fini. Mais jusqu'à quand on dit ça, pour se rappeler qu'on est là, qu'on existe, il y a femmes de tous les niveaux sociaux, et qu'il y a des choses à dire, des choses à partager. Et on a envie, voilà, d'être en entendu. Après aussi, il y a une histoire aussi de Nudo, en tant qu'artiste. On vient de deux univers différents, comme avait dit Martika, fait partie des folkloriques nationales de Cuba. C'est une grosse compagnie de Cuba qui défend ce côté folklorique traditionnel afro-cubain. Et moi, je viens du conservatoire aussi, mais dans les deux domaines, dans les deux, nos deux modes de vie, dans les deux vécus, on va dire. Et il y a des discrimination, il y a des choses aussi pour se battre. Et nous, on a un parcours déjà artistique, parce que moi, ça fait 28 ans que j'ai fait la musique, et Martha aussi a fait beaucoup de scènes, a fait beaucoup de choses, des scènes partout. Et c'était une manière de nous affirmer, nous, en tant qu'artistes, de dire, c'est notre moment à nous. Voilà, parce que voilà, on a fait plein de choses, mais c'était toujours les projets des ou à la manière de faire des autres, même en étant des leads. Mais leads avec d'autres projets, d'autres intérêts artistiques, d'autres musiciens ou d'autres artistes. Et c'est vrai que ces projets, quand nos managers, mes parents, elle nous a dit, allez, on va faire des choses, allez composer, libérez-vous. Et naturellement, on a commencé à écrire des choses qui étaient dans notre trip et qui s'est sorti naturellement. Donc, Hasta Cuando, c'est un des premiers titres qui est sorti très naturellement. Et ça parle aussi de nous. Hasta Cuando, maintenant, c'est à nous de dire ce qu'on a envie de dire, de s'exprimer comme on a envie de s'exprimer, de sur scène comme on a envie d'être. Et voilà, ça a sorti un peu la folie, l'envie, plein de choses qu'on avait envie de dire, de partager artistiquement aussi. Donc il y a ça aussi, il n'y a pas que les droits des femmes. Donc il y a un côté militant pour les autres femmes, évidemment, pour la sororité et tout ça, mais pour nous aussi, c'est notre moment.
C'est un projet personnel qui vous ressemble.
Beaucoup, oui.
Finalement, il y a un titre aussi qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle La Vendedora, et qui parle des vendeuses de rue. Donc dans le refrain du morceau, je crois que vous parlez un peu comme les vendeuses de rue à Cuba, et quand ils appellent le client, un peu l'équivalent de ce que nous on fait au marché en France.
C'est ça.
Et pourquoi avoir choisi ce métier pour ce titre?
Ça a sorti aussi naturellement, mais oui.
Ça s'est sorti naturellement, mais aussi c'est
l'engagement. C'est commun à Cuba comme métier, non? Enfin, c'est,
oui.
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup de vendeuses dans la rue, mais aussi c'est très important pour nous de remarquer ça, parce que malgré la situation économico-sociale à Cuba, nous, on fait une allusion de s'accrocher à les cultes, à la religion, à la spiritualité, pour subsister et continuer à avancer. Donc, on vend de tout, on vend rien, mais surtout, il y a toujours les fleurs que c'est économiquement, les gens, ils sont toujours les petits moyens pour acheter ça pour les divinités, pour les offrandes.
Oui, on s'accroche et on peut encore acheter ça. C'est cette générosité qui est à Cuba, qui est très présente.
Même ils sont rien, mais il y a toujours quelque chose pour.
Chose que peut-être on a moins ici en France, vous trouvez, ou Où vous retrouvez cette générosité chez les Français aussi?
Générosité par rapport à quoi?
Vous parlez des offrandes qu'on achète aux vendeuses de rue, peut-être pour la famille ou pour les amis?
Ça dépend, oui.
Je vous pousse un peu à mal parler des Français, pardon.
C'est pas grave.
Non, mais forcément, il doit y avoir des similitudes.
Bien évidemment. Et est-ce que vous avez prévu des concerts à Cuba?
On a posé cette question ce matin. On a marré bien parce que c'est vrai que ça fait 13 ans que je suis en France, Martika un peu plus. Et dans notre musique, il y a évidemment la racine cubaine, la racine africaine, mais il y a un côté aussi très international. Parce que, comme je vous dis, j'insiste sur ce point-là parce que c'est très important par rapport à ça qu'on avait fait avant. On était très façonnés dans la manière d'écrire et de composer. Et c'est vrai qu'avec ces projets, on s'est révélé, on va dire. On dit ça en français,
On dit révélé, tout à fait, on le dit.
Et pour nous, ça nous intrigue aussi, ça nous rend curieux. Qu'est-ce que ça va donner à Cuba? Parce que ce n'est pas un projet qu'on peut dire. Des femmes, des artistes cubaines. On est né à La Havane, on a vécu là-bas. Et c'est notre pays. Mais c'est un projet qui peut aller partout. Et on aimerait savoir dans le public cubain, qu'est-ce que ça peut donner? Parce qu'il y a ses racines cubaines, mais il y a ses racines aussi world music, vous voyez. Donc, on est curieux aussi de voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais on aimerait évidemment d'y aller chanter à Cuba, à La Havane, ou partout.
Partout. Mais soyez curieux, vous aussi, auditeurs. Allez écouter le concert de sortie le vendredi 7 novembre au studio de l'Ermitage à Paris, à 20h, à Perpignan le 5 novembre, à la Casa Musicale à 19h, et le 6 décembre à la Grande Combe au Chapiteau. Merci, Las Panteras, d'avoir été avec nous.
Merci.
Muchas gracias.
C'est déjà fini. Oh,
c'était trop court.
C'est trop court.
Merci.
On dit en Yoruba, à Dupué.
À Dupué.
Gracias.
Gracias.
Merci Hugo, et merci Martha et Eliane. Je rappelle le nom de votre duo, Las Panteras, et on va écouter l'un de vos titres tout de suite pour conclure ce Zoom. Ce titre, c'est Hasta Cuando.
Hasta Cuando. Hasta Cuando. Hasta Cuando. Si somos las mujeres que tenemos el mando. Hasta Cuando. Hasta Cuando. Hasta Cuando. Si somos las mujeres que tenemos el mando. Hasta Cuando. Hasta Cuando. Si somos las mujeres que tenemos el mando.
Yo no quiero un hombre que me tenga amarrado y sin consuelo y con veneno. Yo me quiero suficiente, me valoro para salir de este infierno.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
Listen to me.
Si somos las mujeres que tenemos el mando. ¿Hasta cuándo?
Vencida por la fuerza de la masculinidad. Es la historia genuina que se repite y continúa hasta la actualidad. No puedo más, no aguanto más. Espero mis hermanas se revelen ya. Que la palabra hombre para Dios no significa abusar de la feminidad.
¿Hasta cuándo?
Ay, ay, ay.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Repítelo conmigo.
Si somos las mujeres que tenemos el mando. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo,
baby? ¿Hasta cuándo?
H-Pan.
listen to me. Sister, sister, listen to me.
No permita que lo mismo.
Sister, sister, listen to me. Sister, sister, listen to me.
Llámalo, 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 llámalo.
Sister, sister, listen to me. Sister, sister, listen to me.
Y no pienso discutirlo con
nadie. Sister, sister, listen to me.
C'était Hasta Cuando de Las Panteras qui étaient les invités du Zoom du jour.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et on conclut cette matinale avec ta chronique, Delila. De quoi vas-tu nous parler ?
Cette semaine, mes amis, je suis en deuil. Il n'y aura pas de chronique de blague, mais plutôt un instant de recueillement. On ne pleurera hélas pas la chute du gouvernement Le Cornu II, sauvé par le Parti Socialiste, non, non. Je vous propose l'éloge funèbre des bijoux de la couronne de France dérobés ce dimanche 19 octobre. Parce que vous me faites bien rire à vous exciter. Oui, Sarkozy va en prison, Sarkozy va en prison, alors que c'est le président de la République le plus honnête depuis Jésus-Christ. Lui, il a rien volé. Vous allez me dire, les fonds publics, l'argent libyen, gnu gnu gnu. Écoutez, moi j'en ai ras la talonnette d'entendre ça. Il était censé faire quoi au juste ? Laisser cette pauvre petite mallette de billets seule ? C'est quoi la prochaine étape ? Vous allez me dire, oui, mais elle avait la vie devant elle, elle venait de décrocher son master de droit public et M. Sarkozy l'a fauché à son destin pour l'amour du grand banditisme. Dimanche, donc, on a dérobé des vieux bijoux. Moi, si on me demande, je les ai jamais vus et jamais portés, mais je reste une femme de culture, donc ma première réflexion, c'est de me dire, qu'est-ce que je m'en bats les couilles ? Perso, tout va bien. Et vous ? Oula, ça va pas fort. C'est un auditeur un peu patraque, je crois. Est-ce que ça va ?
Rendez les bijoux de la couronne. Vous avez intérêt à les rendre.
Oui. Ne réglez pas votre poste. Hein. Je sais qu'on aurait dit Satanas, mais je vous jure qu'on n'a pas changé de chaîne. Vous demandez sûrement qui est ce personnage théâtral, ce sombre Gugus visiblement atterré, ce sauveur du patrimoine français, oserais-je dire le Batman qu'on mérite. Pierre-Jean Chalençon est donc un énorme droitard réactionnaire, fanzouz de Napoléon. Vous le connaissez sûrement au moins de nom depuis l'affaire des dîners clandestins, début 2021, en pleine pandémie du Covid. M6 diffuse des images d'un fastueux dîner organisé dans un hôtel particulier où le masque est interdit. S'ensuit une magnifique séance médiatique dans laquelle il est invité partout et où il balance le nom de son complice cuisinier, dément l'existence des dîners pour ensuite dire « promis, c'était juste une fois », avant de dire qu'il est un peu le fils spirituel de Pierre Desproges et qu'il n'a rien avoué parce que c'était de l'humour. Et quel humour ! Puisqu'il est visé par une plainte pour racisme et qu'il avait déclaré pour la mort du vieux gobelin du Front National ces quelques vers que je partage avec vous. « À l'homme qui a ébloui ma vie, je t'aime, mon ami, mon amour, ton petit lapin. Vive la France. » Un véritable petit trublion. Il a tenu cependant à adresser un message on ne peut plus sérieux aux ravisseurs du Louvre. Alors, chut chut, on écoute.
Bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi, on va venir vous chercher. Bande d'escrocs, traîtres.
Je sais ce que vous ressentez. On est 68 millions à s'être chiés dessus après ces menaces. Imaginez, fermez les yeux. On vient de réaliser le casse du siècle. Maintenant, on fonce à la frontière belge. Attends, mec, je crois qu'on est suivi. Eh oui, c'est moi, bande de Nasbrock. Vous ne pourrez jamais semer mes Napoléon mobiles. Vous êtes des gugus, de pauvres types, des méchants. J'en tremble. En tout cas, un grand merci aux voleurs, sinon on n'aurait jamais vu cette vidéo. Et pour citer le fameux cuisinier des dîners clandestins...
Quel con, Pierre-Jean, ferme ta gueule.
Merci beaucoup Delila pour cette chronique qui était aussi à la réalisation ce soir. C'est la fin de cette matinale de 19h. Un grand merci à Hugo pour le Zoom du jour, mais aussi à Thomas pour le Flash Info, ainsi qu'à Radio U-Brest et Radio Campus Orléans pour leurs interviews. Remercie aussi toute l'équipe de Radio Campus Paris pour la préparation de cette émission. À la présentation, c'était moi-même, Simon B pour les intimes. Merci à vous d'avoir été avec nous et très bonne soirée sur Radio Campus Paris.